Panillon, numéro 10.
L'ascension et la chute des nations. Le scellement des 144 000 est l'histoire prophétique cachée de Daniel 11, 10, 10, 16.
Le thème des versets 11 et 12 est la montée et la chute du roi du Sud, tout comme la montée et la chute finale des États-Unis, représentée par le dernier président au verset 2, et comme l'ultime représentant terrestre de la puissance du dragon, la montée et la chute finale des Nations Unies, représentée au verset 3 et 4. Les versets 5 à 9 retracent l'histoire de la puissance papale de 1538 jusqu'en 798. 738 marque l'établissement de la puissance papale. 798 marque la blessure mortelle de la papauté. Et par conséquent, les versets 5 à 9 représentent la montée et la chute finale de la bête. Le verset 10 désigne 1989 comme la chute du roi du Sud, représenté par l'ex-Union soviétique.
Chaque nation qui est apparue sur le théâtre de l'action a été autorisée à occuper sa place sur la terre, afin que l'on voie si elle accomplirait le dessein du Veilleur et du Saint. La prophétie a retracé l'essor et la chute des grands empires du monde, Babylone, Médo-Perse, la Grèce et Rome. Pour chacun d'eux, comme pour des nations de moindre puissance, l'histoire s'est répétée. Chacun a connu son temps d'épreuve, chacun a failli. Sa gloire a pâli, sa puissance s'est évanouie, et sa place a été occupée par un autre.
En observant l'essor et la chute des nations telles qu'ils apparaissent clairement dans les pages des Saintes Écritures, il leur faut apprendre combien la gloire purement extérieure et mondaine est vaine. Babylone, avec toute sa puissance et sa magnificence, dont notre monde n'a jamais revu l'égal. Puissance et magnificence qui, aux yeux des hommes de ce temps-là, paraissaient si stables et durables, comme elle a complètement disparu. Comme la fleur de l'herbe, elle a péri. Ainsi périt tout ce qui n'a pas Dieu pour fondement. Seul ce qui est lié à son dessein et exprime son caractère peut durer. Ces principes sont les seules réalités inébranlables que connaisse notre monde. Éducation, sans cet tête point, une sans trensas.
Les versets 11 et 12 identifient l'ultime ascension et la chute du roi du Sud, représenté par la Russie. Les versets 13 à 15 identifient l'ultime ascension et la chute des États-Unis. L'ensemble de récits prophétiques du chapitre 11 est construit sur la structure de l'ascension et de la chute des royaumes. L'étudiant de la prophétie doit considérer ce fait s'il veut avoir quelque chance d'interpréter correctement le message prophétique du chapitre 11. La perspective fondamentale du chapitre 11 de Daniel est qu'il se compose d'illustrations répétées de l'ascension et de la chute des royaumes. Lorsque Sir White a déclaré « Ainsi périt le royaume Médo-Perse et les royaumes de la Grèce et de Rome », elle identifie la Grèce au dragon, Rome à la bête et la Médo-Perse au faux prophète. Elle désigne l'ultime montée et la chute du dernier royaume terrestre, constitué du dragon, de la bête et du faux prophète, qui commencent leur ascension avec la loi du dimanche et conduisent le monde à Armageddon en accomplissement d'Apocalypse 16-12-21. Elle oriente le peuple de Dieu vers la montée et la chute des nations telles qu'elles sont clairement exposées dans les pages de la Sainte Écriture comme la perspective à adopter afin d'apprendre combien la simple gloire extérieure et mondaine est sans valeur.
La raison pour laquelle nous devons apprendre à quel point la gloire purement extérieure et mondaine est de sans valeur, c'est de comprendre davantage que tout périt, qui n'a pas Dieu pour fondement. C'est donc une question de vie ou de mort d'avoir ou non Dieu pour fondement. À partir de là, dans le développement de la pensée, Sir White définit ce que signifie avoir Dieu pour fondement, lorsqu'elle déclare « seul ce qui est lié à son dessein et exprime son caractère peut subsister ». Elle vient d'expliquer que tout ce qui n'a pas Dieu pour fondement périt, et que ce qui est construit sur ce fondement se reconnaît à deux critères. Qu'une chose soit liée à ses desseins et qu'elle exprime son caractère. Son caractère est son fondement.
Puis, dans la dernière phrase du paragraphe, elle déclare que « ces principes sont les seules réalités immuables que notre monde connaisse ». Le caractère de Dieu, ce sont ses principes, et ses principes expriment son caractère. La manière dont l'humanité se rapporte à Dieu, en tant que fondement de toute chose, est une question de vie ou de mort. J'affirme que la structure fondamentale du chapitre 11 de Daniel est construite sur le récit de l'essor et du déclin des royaumes. Il existe un passage où l'aspiration nous indique une méthode d'étude correcte.
Il existe un genre d'étude de l'histoire qui n'a pas à condamner. L'histoire sacrée faisait partie des matières enseignées dans les écoles des prophètes. Dans le récit de ses agissements envers les nations étaient tracées les empreintes des pas de Jéhovah. Ainsi, aujourd'hui, nous devons considérer les agissements de Dieu à l'égard des nations de la terre. Nous devons voir dans l'histoire l'accomplissement de la prophétie, étudier l'action de la providence dans les grands mouvements de réforme et comprendre le déroulement des événements dans la mise en ordre de bataille des nations
en vue du conflit final de la grande controverse. Le ministère de la guérison, 441.
Une étude sanctifiée de l'histoire consiste à étudier l'action de Dieu à l'égard des nations de la terre, ainsi que la direction providentielle de ses mouvements réformateurs. Ainsi, une histoire sanctifiée comprend une ligne d'étude externe et une ligne d'étude interne. Le but d'employer l'histoire pour confirmer la parole prophétique de Dieu est d'utiliser cette histoire prophétique afin de comprendre le cours des événements dans le rassemblement des nations en vue du conflit final de la grande controverse. Le paragraphe précédent de Sir White a été tiré d'une explication très éclairée de la nécessité d'élaborer un modèle prophétique de l'histoire sacrée, fondé sur la structure fondamentale représentée par l'essor et le déclin des royaumes.
Comme préparation à l'œuvre chrétienne, beaucoup estiment essentiel d'acquérir une vaste connaissance des écrits historiques et théologiques. Ils supposent que ces connaissances leur seront en aide dans l'enseignement de l'Évangile. Mais leur étude laborieuse des opinions des hommes tend à affaiblir leur ministère plutôt qu'à le fortifier. Quand je vois des bibliothèques remplies de volumineux ouvrages d'érudition historique et théologique, je me dis « Pourquoi dépenser de l'argent pour ce qui n'est pas du pain ?» Le sixième chapitre de Jean nous en dit plus que ce qu'on peut trouver dans de tels ouvrages. Le Christ dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. » Jean 6, 35, 51, 47, 63. Il existe une manière d'étudier l'histoire qui n'est pas à condamner. L'histoire sacrée faisait partie des études dans les écoles des prophètes. Dans le récit de ses relations avec les nations, on discernait les traces des pas de Jéhovah. Ainsi, aujourd'hui, nous devons considérer les interventions de Dieu à l'égard des nations de la terre. Nous devons voir dans l'histoire l'accomplissement de la prophétie, étudier l'action de la Providence dans les grands mouvements réformateurs et comprendre le cours des événements dans le rassemblement des nations en vue du conflit final de la grande controverse. Une telle étude offrira des perspectives larges et complètes sur la vie. Elle nous aidera à comprendre ses rapports et ses dépendances, à quel point nous sommes merveilleusement liés les uns aux autres dans la grande fraternité de la société et des nations, et dans quelle mesure l'oppression et la dégradation de l'un de ses membres signifient une perte pour tous. Mais l'histoire, telle qu'on l'étudie généralement, s'intéresse aux réalisations de l'homme, à ses victoires sur les champs de bataille, à sa réussite à atteindre le pouvoir et la grandeur. L'intervention de Dieu dans les affaires des hommes passe inaperçue. Peu étudie l'accomplissement de son dessein dans l'essor et le déclin des nations. Et, dans une large mesure, la théologie, telle qu'on l'étudie et l'enseigne, n'est qu'un recueil de spéculations humaines, ne servant qu'à obscurcir le conseil par des paroles sans connaissance. Trop souvent, le mobile qui pousse à accumuler tant de livres n'est pas tant le désir de nourrir l'esprit et l'âme que l'ambition de se familiariser avec les philosophes et les théologiens. Le désir de présenter le christianisme aux gens en des termes et des propositions érudits. Tous les livres qui ont été écrits ne peuvent servir au but d'une vie sainte. Apprenez de moi, dit le grand maître, prenez mon joug sur vous. Apprenez ma douceur et mon humilité. Votre orgueil intellectuel ne vous aidera pas à communiquer avec des âmes qui périssent faute du pain de vie. Dans votre étude de ces livres, vous leur permettez de prendre la place des leçons pratiques que vous devriez apprendre du Christ. Les résultats de cette étude ne nourrissent pas le peuple. Très peu de cette recherche, si épuisante pour l'esprit, fournit ce qui aidera à devenir un ouvrier efficace pour les âmes. Le Sauveur est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Luc 4, 18. Dans son enseignement, il employa les termes les plus simples et les symboles les plus clairs. Et il est dit que « les gens du peuple l'écoutaient avec plaisir » Marc 12, 37. Ceux qui cherchent à accomplir son œuvre pour ce temps ont besoin d'une compréhension plus profonde des leçons qu'il a données. Les paroles du Dieu vivant représentent l'éducation la plus élevée qui soit. Ceux qui exercent un ministère auprès du peuple ont besoin de se nourrir du pain de vie. Cela leur donnera une force spirituelle. Alors ils seront préparés à exercer un ministère auprès de toutes les catégories de personnes. Le ministère de la guérison, 441-443.
Sir White précise en outre que reconnaître la manifestation de la puissance de Dieu dans l'intronisation et la destitution des rois, selon les choix du roi, constitue la véritable philosophie de l'étude de l'histoire.
Dans l'histoire des nations, le lecteur de la parole de Dieu peut contempler l'accomplissement littéral de la prophétie divine. Babylone, finalement brisée et anéantie, disparut, parce que, dans la prospérité, ses dirigeants s'étaient considérés comme indépendants de Dieu et avaient attribué la gloire de leur royaume à l'œuvre humaine. Le royaume médo-perse fut frappé par la colère du ciel,
parce que la loi de Dieu y avait été foulée aux pieds. La crainte du Seigneur n'avait trouvé aucune place dans le cœur de la grande majorité du peuple. La méchanceté, le blasphème et la corruption régnaient. Les royaumes qui suivirent furent encore plus vils et corrompus, et ils sombrèrent toujours plus bas sur l'échelle de la valeur morale. Le pouvoir exercé par tout souverain sur la terre est conféré par le ciel, et sa réussite dépend de l'usage qu'il fait de pouvoir ainsi accordé. À chacun s'adresse la parole du veilleur divin. « Je t'ai saint, bien que tu ne me connaisses pas. » Ésaïe 45:5. Et pour chacun, les paroles adressées jadis à Nabucodonosor sont une leçon divine. Romps avec tes péchés par la justice, et tes iniquités en faisant miséricorde aux pauvres. Peut-être y aura-t-il un prolongement de ta tranquillité. Daniel 4:27. Comprendre ces choses, comprendre que la justice élève une nation, que le trône est affermi par la justice et soutenu par la miséricorde, reconnaître le déploiement de ses principes dans la manifestation de sa puissance, lui qui destitue des rois et en établit, c'est comprendre la philosophie de l'histoire. Proverbes 14:34, 16:12, 20:28, Daniel 2:21. Seule la parole de Dieu l'expose clairement. On y voit que la force des nations, comme celle des individus, ne se trouve pas dans les avantages ou les moyens qui paraissent les rendre invincibles. Elle ne se trouve pas dans leur grandeur vantée. Elle se mesure à la fidélité avec laquelle ils accomplissent le dessein de Dieu. Prophètes et Rois, 501, 502.
Le thème des versets 11 et 12 est l'ascension et la chute du roi du Sud. Mais plus important encore, ces versets marquent le scellement des 144 000, ainsi que la deuxième des trois épreuves qui ont commencé au temps de la fin en 1989, comme le montre le verset 10. Ce scellement est représenté par Daniel dans la fosse aux lions, les trois jeunes gens dans la fournaise ardente, Daniel et les trois jeunes gens priant pour comprendre le rêve de Nabucodonosor concernant l'image des bêtes au chapitre 2, Daniel priant la prière de Lévitique 26 au chapitre 9, les sages qui comprennent l'accroissement de la connaissance, Josué se voyant ôter son péché dans le chapitre 3 de Zacharie, Zorobabel dans le chapitre 4 de Zacharie, Joseph devenant le second dirigeant en Égypte, les disciples dans la chambre haute pendant 10 jours avant la Pentecôte, les millérites au camp meeting d'Exeter, Lazare menant la procession lors de l'entrée triomphale et les 144 000 dans le chapitre 7 de l'Apocalypse. Le verset 11 est arrivé en 2014, au début de la guerre en Ukraine. Et en juillet 2023, le test visuel, au cours duquel le peuple de Dieu est rendu blanc, a commencé. La cinquième ligne du chapitre 11 se compose des versets 13 à 15.
Vue d'ensemble de la cinquième ligne.
Car le roi du Nord reviendra et mettra en campagne une multitude plus grande que la première. Après quelques années, il viendra certainement avec une grande armée et de grandes richesses. En ces temps-là, beaucoup se lèveront contre le roi du Sud. Les violents d'entre ton peuple aussi s'exalteront pour établir la vision, mais ils tomberont. Alors le roi du Nord viendra, élèvera des terrassements et prendra les villes les plus fortifiées. Les forces du Sud ne résisteront pas, ni ses troupes choisies, et il ne se trouvera aucune force pour résister. Daniel 11, 13, 15.
Ces versets ont trouvé leur accomplissement en 200 avant Jésus-Christ et identifient la bataille de Panium, qui met en scène les rois adverses et leurs alliances. Ces versets marquent également le moment de l'histoire où la Rome païenne s'est pour la première fois affirmée dans l'histoire de Daniel 11. Les versets comprennent la montée et la chute finale du sixième royaume de la prophétie biblique, mais aussi le récit biblique de la visite du Christ à Césarée de Philippe, où Pierre situe le scellement des 144 000. Cette histoire typifie le scellement des 144 000 avec l'arrivée de la troisième des trois épreuves du chapitre 12, consistant à être purifié, blanchi et éprouvé. Ces trois versets mènent au verset 16, où la loi du dimanche aux États-Unis est représentée. Lorsque le camp meeting d'Exeter s'est terminé le 17 août 1844, les vierges sages ont porté le message du cri de minuit le long de la côte est des États-Unis en 66 jours. Il y a une période où toutes les vierges se réveillent et où une classe n'a pas d'huile, avec tout ce que cela implique. Lorsque le nom de Simon Barjona a été changé en Pierre, le scellement des 144 000 est marqué. À partir de ce moment, Jésus a commencé à enseigner aux disciples les événements liés à la croix. La croix est un symbole de la fin du temps de grâce, et William Miller, qui avait été préfiguré par Jean-Baptiste, lui-même préfiguré par Élie, fut suscité pour présenter les événements liés à la fin du temps de grâce, comme l'avaient fait Jean-Baptiste et Élie. Jean-Baptiste l'a dit ainsi.
« Mais, voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir à son baptême, il leur dit « Ô race de vipères, qui vous a averti de fuir la colère à venir ?» Matthieu 3, 7.
Élijah l'a dit ainsi.
et Achab fit un bosquet. Et Achab irrita davantage l'Éternel, le Dieu d'Israël, que tous les rois d'Israël qui l'avaient précédé. De son temps, Yael de Béthel bâtit Jéricho. Il en posa les fondations au prix d'Abiram, son premier-né, et en dressa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole de l'Éternel qu'il avait prononcée par Josué, fils de Noun. Et Élie le Tishbite, qui était l'un des habitants de Galaad, dit à Achab : L'Éternel, le Dieu d'Israël, est vivant, devant qui je me tiens, il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. 1 Rois 16:33-17:1.
Parlant de l'œuvre de William Miller en tant que réformateur moderne, Sir White déclara :
Il était nécessaire que les hommes soient avertis de leurs dangers, qu'ils soient incités à se préparer aux événements solennels liés à la fin de l'approbation. La grande controverse, 310.
Les 6 derniers versets de Daniel 11 représentent les événements liés à la fin du temps de grâce. Ces événements ont été décelés au temps de la fin, en 1989, et ils ont été clairement révélés.
Avant sa crucifixion, le Sauveur expliqua à ses disciples qu'il devait être mis à mort et ressuscité du tombeau, et des anges étaient présents pour imprimer ses paroles dans les esprits et les cœurs. Mais les disciples attendaient une délivrance temporelle du joug romain, et ils ne pouvaient supporter l'idée que celui en qui se concentraient toutes leurs espérances dût subir une mort ignominieuse. Les paroles qu'ils devaient retenir furent chassées de leur mémoire, et lorsque vint le moment de l'épreuve, il les trouva non préparées. La mort de Jésus anéantit entièrement leurs espérances, comme s'il ne les avait pas avertis d'avance. Ainsi, dans les prophéties, l'avenir s'ouvre devant nous aussi clairement qu'il s'est ouvert devant les disciples, par les paroles du Christ. Les événements liés à la fin du temps de grâce et à l'œuvre de préparation pour le temps de détresse sont clairement présentés. Mais des multitudes n'ont pas davantage de compréhension de ces vérités importantes que si elles n'avaient jamais été révélées. Satan veille à ravir toute impression qui pourrait les rendre sages en vue du salut, et le temps de détresse les surprendra non prêts. La grande controverse, 4:54.
C'est à Césarée de Philippe, à savoir Panium, ce qui correspond aux versets 13 à 15, que le Christ commença à enseigner à ses disciples au sujet de la croix, typifiant ainsi l'histoire du camp meeting d'Exeter jusqu'au 22 octobre 1844. Au début du mouvement réformateur des 144 000, les événements liés à la clôture du temps de probation ont été dévoilés, et à la fin du mouvement des 144 000, les événements liés à la clôture du temps de probation sont dévoilés au sein de l'histoire cachée du verset 40.
Aujourd'hui, dans l'esprit et la puissance d'Élie et de Jean-Baptiste, des messagers désignés par Dieu appellent l'attention d'un monde voué au jugement sur les événements solennels qui vont bientôt se produire en rapport avec les dernières heures du temps de grâce et l'apparition du Christ Jésus comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Prophètes et rois, 715-716.
Les événements liés à la clôture de la période de probation sont ceux qui sont dévoilés dans l'histoire cachée du verset 40. Dans le chapitre 3 de Zacharie, les scènes finales du jugement d'investigation sont illustrées. L'inspiration associe le témoignage de Zacharie à ceux qui sont scellés dans le chapitre 9 d'Ézéchiel.
Le peuple de Dieu soupire et gémit à cause des abominations commises dans le pays. Les larmes aux yeux, ils avertissent les méchants du danger qu'ils courent en foulant aux pieds la loi divine. Et, avec une douleur indicible, ils s'humilient devant le Seigneur à cause de leurs propres transgressions. Les méchants se moquent de leur douleur, tournent en dérision leurs appels solennels et raillent ce qu'ils appellent leur faiblesse. Mais l'angoisse et l'humiliation du peuple de Dieu sont la preuve manifeste qu'ils retrouvent la force et la noblesse de caractère perdus par suite du péché. C'est parce qu'ils se rapprochent du Christ et que leurs yeux sont fixés sur sa parfaite pureté qu'ils discernent si clairement l'extrême gravité du péché. Leur contrition et leur abaissement d'eux-mêmes sont infiniment plus agréables aux yeux de Dieu que l'esprit suffisant et autant de ceux qui ne voient aucune raison de se lamenter, qui méprisent l'humilité du Christ et qui prétendent à la perfection tout en transgressant la sainte loi de Dieu. La douceur et l'humilité de cœur sont les conditions de la force et de la victoire. La couronne de gloire attend ceux qui s'inclinent au pied de la croix. Heureux ces affligés, car ils seront consolés. Les fidèles en prière sont, pour ainsi dire, enfermés avec Dieu. Eux-mêmes ne savent pas avec quelle sûreté ils sont gardés. Poussés par Satan, les princes de ce monde cherchent à les détruire. Mais si leurs yeux pouvaient s'ouvrir, comme le furent ceux du serviteur d'Élisée à deux temps, ils verraient les anges de Dieu camper autour d'eux, tenant en échec, par leur éclat et leur gloire, les armées des ténèbres. Alors que le peuple de Dieu humilie son âme devant lui,
implorant la pureté du cœur, l'ordre est donné, ôtez-leur les vêtements souillés, et des paroles d'encouragement sont prononcées. Voici, j'ai fait passer ton iniquité loin de toi, et je te revêtirai de vêtements de fête. Les enfants de Dieu, éprouvés, tentés, mais fidèles, sont revêtus de la robe immaculée de la justice du Christ. Le reste méprisé est vêtu de vêtements glorieux, pour ne plus jamais être souillé par les corruptions du monde. Leurs noms sont conservés dans le livre de vie de l'agneau, inscrit parmi les fidèles de tous les âges. Ils ont résisté aux ruses du séducteur. Le rugissement du dragon ne les a pas détournés de leur fidélité. Ils sont désormais à jamais à l'abri des artifices du tentateur. Leurs péchés sont transférés à l'auteur du péché. Et le reste n'est pas seulement pardonné et accepté, mais honoré. Un turban pur est posé sur leur tête. Ils seront comme des rois et des prêtres pour Dieu. Pendant que Satan formulait ses accusations avec insistance et cherchait à détruire cette assemblée, des anges saints, invisibles, allaient et venaient, plaçant sur eux le sceau du Dieu vivant. Ce sont ceux qui se tiennent sur la montagne de Sion avec l'agneau, ayant le nom du Père écrit sur leur front. Ils chantent le cantique nouveau devant le trône, ce cantique que nul ne peut apprendre, si ce n'est les 144 000, qui ont été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Ceux-là ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, on n'a trouvé aucun mensonge, car ils sont irréprochables devant le trône de Dieu. Voici maintenant l'accomplissement complet de ces paroles de l'ange. Écoute maintenant, ô Josué, le souverain sacrificateur, toi et tes compagnons assis devant toi, car ils sont un sujet d'étonnement. Car voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Christ est révélé comme le Rédempteur et le Libérateur de son peuple. À présent, le reste est effectivement composé d'hommes qui sont un sujet d'étonnement, alors que les larmes et l'humiliation de leur pèlerinage cèdent la place à la joie et à l'honneur en la présence de Dieu et de l'agneau. En ce jour-là, le germe de l'Éternel sera beau et glorieux, et le fruit de la terre sera excellent et magnifique pour les rescapés d'Israël. Et il arrivera que celui qui sera resté en Sion et celui qui demeurera à Jérusalem sera appelé saint. Quiconque est inscrit parmi les vivants à Jérusalem. Témoignage, volume 5, quatrain 74, quatrain 76.
Les 144 000 dans le livre de l'Apocalypse sont le groupe d'Ézéchiel, scellés, tandis qu'ils soupirent et gémissent à cause des abominations qui sont dans le pays. Ils sont scellés lorsqu'on leur donne le vêtement de la justice du Christ et la tiare pure, qui représente les rois et prêtres de Pierre, eux qui n'étaient pas le peuple de Dieu, mais sont maintenant devenus le peuple de Dieu.
Mais vous, vous êtes une race choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous proclamiez les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme des étrangers et des voyageurs, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme, en ayant au milieu des païens une conduite honorable, afin que, là même où ils vous calomnient comme malfaiteurs, à la vue de vos bonnes œuvres, ils glorifient Dieu au jour où il les visitera. 1 Pierre 2, 9, 12. Maintenant donc, si vous obéissez véritablement à ma voix et gardez mon alliance, vous serez pour moi une possession particulière parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi. Et vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voici les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Exode 19, 5, 6.
Dans les derniers jours de l'histoire de cette terre, l'alliance de Dieu avec son peuple qui garde ses commandements doit être renouvelée. En ce jour-là, je conclurai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, avec les oiseaux du ciel et avec les animaux qui rampent sur la terre. Je briserai l'arc, l'épée et la guerre. Je les ôterai de la terre et je les ferai reposer en sécurité. Et je te fiancerai à moi pour toujours. Oui, je te fiancerai à moi par la justice, le jugement, la bienveillance et la miséricorde. Je te fiancerai même à moi par la fidélité et tu connaîtras le Seigneur. Et tu l'arriveras en ce jour-là que je répondrai, dit le Seigneur. Je répondrai aux cieux, et ils répondront à la terre. Et la terre répondra au blé, au vin et à l'huile. Et ils répondront à Jezreel, et je la sèmerai pour moi dans la terre. Et j'aurai compassion de celles qui n'avaient pas reçu miséricorde, et je dirai à ceux qui n'étaient pas mon peuple, tu es mon peuple. Et ils diront, tu es mon Dieu. Osée 2, 14, 23.
En ce jour-là, le reste d'Israël et ceux qui auront échappé de la maison de Jacob s'appuieront sur le Seigneur, le Saint d'Israël, en vérité. Ésaïe 10:20. Parmi toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple, il s'en trouvera qui répondront avec joie au message « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Ils se détourneront de toute idole qui les lie à cette terre et adoreront celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. Ils se dégageront de toute entrave et se tiendront devant le monde comme des monuments de la miséricorde de Dieu. Obéissant à toute exigence divine, ils seront reconnus par les anges et par les hommes comme ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14, 6-12.
Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où le laboureur rattrapera le moissonneur, et celui qui foule le raisin rattrapera celui qui sème. Les montagnes ruisselleront de vin doux, et toutes les collines se fondront. Je ramènerai de captivité mon peuple, d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils feront aussi des jardins et en mangeront le fruit. Je les planterai sur leur terre, et ils ne seront plus arrachés de leur terre que je leur ai donnée, dit le Seigneur, ton Dieu. Amos 9, 13-15. Review and Herald, 26 février 1914.
Il est évident qu'à partir du moment où la dernière génération choisie des 144 000 est scellée, il y a encore des païens qui peuvent être influencés par le mode de vie, la conduite, des 144 000 pendant le jour de la visitation des païens.
La puissance et la force humaine n'ont pas établi l'Église de Dieu, et elles ne peuvent pas davantage la détruire. Ce n'est pas sur le roc de la force humaine, mais sur le Christ Jésus, le rocher des siècles, que l'Église a été fondée, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Matthieu 16, 18. La présence de Dieu confère de la stabilité à sa cause. Ne mettez pas votre confiance dans les princes, ni dans un fils d'homme. Telle est la parole qui nous est adressée. Psaume 146, 3. Dans le calme et la confiance seront votre force. Ésaïe 30:15. L'œuvre glorieuse de Dieu, fondée sur les principes éternels de la droiture, ne sera jamais réduite à néant. Elle ira de force en force, ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur des armées. Zacharie 4:6.
La promesse, les mains de Zorobabel ont posé les fondations de cette maison. Ses mains l'achèveront aussi, fut littéralement accomplie. Verset 9. Les anciens des Juifs bâtirent, et ils prospérèrent grâce à la prophétie d'Agué le prophète de Zacharie, fils d'Ido. Et ils bâtirent et l'achevèrent, selon l'ordre du Dieu d'Israël, et selon l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès, roi de Perse. Et cette maison fut achevée le troisième jour du mois d'Adar, le 12e mois, qui était la 6e année du règne du roi Darius. Esdras 6:14-15. Prophète et roi, 595-596.
Les versets 13 à 15 représentent les événements prophétiques qui conduisent à la clôture du temps de grâce pour ceux qui gardent le sabbat au moment de la loi du dimanche. Ils représentent aussi la troisième des trois étapes dans le verset 10 de Daniel 12. Le verset 10 est la purification. Les versets 11 et 12 représentent le blanchissement et les versets 13 à 15 représentent l'épreuve décisive où les vierges qui gardent le sabbat sont éprouvées. Le message interne du livre de Daniel est représenté par la vision du fleuve Oulai des chapitres 7 à 9, et le message externe est représenté par la vision du fleuve Hidekel des chapitres 10 à 12. Le chapitre 12 est le point culminant des visions internes et externes, et il présente la méthode par laquelle le Christ suscite et purifie les 144 000. Les versets 10 à 16 représentent l'histoire cachée du verset 40 de 1989 jusqu'à la loi du dimanche mentionnée aux versets 40 et 1 et 16. Les versets qui s'inscrivent dans l'histoire cachée représentent l'accomplissement parfait du verset 10 du chapitre 12.
Beaucoup seront purifiés, blanchis et éprouvés. Mais les méchants agiront méchamment et aucun des méchants ne comprendra. Mais les sages comprendront. Et depuis le temps où le sacrifice perpétuel sera supprimé et où l'abomination qui cause la désolation sera dressée, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attend et qui parvient jusqu'à 1335 jours. Daniel 12, 10, 12.
Les sages qui comprennent les versets 10 à 16 et qui ont été scellés à la foi, intellectuellement et spirituellement, sont ceux qui comprennent le message prophétique externe représenté dans l'histoire cachée du verset 40, et ils ont été intellectuellement affermis dans cette compréhension avant la loi du dimanche.
Les sages sont ceux qui ont été transformés par le message interne représenté par l'Apocalypse, chapitre 11, verset 11, et ils se sont affermis dans cette expérience avant la loi du dimanche. Les sages sont ceux qui ont reçu la bénédiction associée à l'attente, marquant les 144 000 comme ceux qui réalisent l'achèvement parfait et final des 10 vierges. Apocalypse 11, verset 11, est arrivé en juillet 2023, marquant ainsi le temps de la fin, lorsque Daniel et l'Apocalypse attestent par deux témoins que l'accroissement de la connaissance, qui a été décelé en juillet 2023, identifie le processus de scellement des 144 000, 11 plus 11 égale 22, qui est un symbole de la combinaison de la divinité avec l'humanité, et ceux qui passent par le processus de purification en trois étapes qui produit les 144 000 sont identifiés dans Daniel 12, verset 12, ce qui fournit une autre signature de palmonie, car 12 fois 12 font 144 000. Nous poursuivrons cette étude dans le prochain article.